sur la terre, est né miraculeusement, on est d'accord là-dessus. Et puis il a vécu de façon extraordinaire, il a appelé ses disciples, il a parlé dans le temple, les gens étaient surpris de le surprendre alors qu'il était un enfant encore, un adolescent, d'avoir une telle sagesse, une telle autorité, une telle connaissance des Écritures. Et le Seigneur, au travers de, son ministère sur terre, s'est adressé à des foules entières. Il a guéri des malades, il a chassé des démons, et puis il a rencontré des personnes. Imaginez le peu de temps que Jésus avait sur la terre. Rencontrer Jésus seul à seul devait être une chose assez extraordinaire. Et c'est ainsi que Jésus, dans son carnet divin, que le Père Céleste lui communiquait, avait des rendez-vous divins sur cette terre. Notamment, il a rencontré la Samaritaine, il a rencontré Nicodème, il a rencontré Zachée, il a rencontré la femme adultère et ainsi de suite, et a eu des rencontres extraordinaires avec des gens qui ont eu leur vie complètement transformée. Le jeune homme riche, il est écrit qu'il est parti tout triste. Mais nous allons regarder ici ce matin une rencontre extraordinaire qui s'est passée entre Jésus et un homme particulier qui vivait en Israël. Je vous invite à tourner dans vos Bibles en Jean chapitre 3 et verset 1. Et nous allons lire, si vous voulez bien, du verset 1 au verset 10. Jean chapitre 3, versets 1 à 10. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit « en vérité je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit « il faut que vous naissiez de nouveau ». Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses ?» Prions, s'il vous plaît. Père éternel, merci de nous conduire ce matin dans la méditation, l'instruction de ta parole. Nous avons besoin, comme Samuel qui était réveillé, et qui disait « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Oui, nous avons besoin de t'écouter ce matin. Rends nos cœurs dociles, afin que ta parole pénètre en nous, cette parole que toi-même tu as inspirée, que nous pouvons lire, méditer, et que nous pouvons partager. Quel privilège nous avons de pouvoir ouvrir nos Bibles et ainsi être instruits de ta part. Alors nous te prions ce matin de conduire ces moments, et nous te donnerons toute la gloire de l'effet de ta parole, car tu as promis que ta parole est comme un marteau qui brise le roc et que ta parole ne revient point à toi sans avoir accompli ses desseins. Merci pour l'œuvre de la parole dans nos vies, Seigneur, et nous t'en bénissons déjà à l'avance en ton nom. Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà lu cette histoire, mais j'ai pensé ce matin que c'est toujours bon de rencontrer Jésus et de se mettre un petit peu dans les pieds ou les chaussures ou la peau de Nicodème. Nicodème était un chef religieux, un homme instruit, mais qui cherchait? Alors peut-être quelqu'un d'entre nous ce matin cherche Dieu, tout en croyant peut-être le connaître, tout en sachant qu'il manque quelque chose et qu'il a besoin de rencontrer Jésus. Alors ce message et certainement pour vous. Alors Nicodème était un homme qui pourtant était instruit dans la religion, c'était un homme doué, et c'était même un chef religieux, c'était aussi un membre du Sanhédrin. Donc le Sanhédrin, c'était un groupe de 70 hommes, je pense, du temps de Jésus, qui se réunissaient et qui avaient un certain pouvoir juridique et politique sur Israël. C'était un chef religieux, et même il est écrit qu'il était un docteur en Israël. Donc c'était une figure, une grande personnalité qui vient rencontrer Jésus de nuit. Pourquoi vient-il de nuit? On peut poser la question. Alors peut-être vous pensez, ben, c'est vrai que de nuit, Jésus était peut-être plus accessible. Ou tout simplement, je pense que Nicodème avait quelques difficultés de penser qu'en allant voir Jésus publiquement, de jour, ses collègues du Sanhédrin, ses collègues chefs religieux, allaient le juger, voire le condamner, et seraient peut-être ensuite moqués ou même persécutés, incompris. Donc il est allé voir Jésus de nuit. Alors j'aimerais vous dire que, quelque part, peut-être cette nuit symbolise les ténèbres du cœur humain, mais quand on est dans les ténèbres, on a besoin de lumière, et d'aller voir Jésus à n'importe quel jour de l'heure de la nuit, c'est pas simplement la nuit, on peut le rencontrer. Avez-vous déjà rencontré Jésus dans votre vie? Je ne vous parle pas d'une rencontre avec une religion. Je me souviens, en tant que croyant d'une religion, j'ai été baptisé, bon, on ne m'a pas demandé mon avis, tout petit, j'ai fait certains rites religieux, jusqu'à ce que j'ai besoin de découvrir le vrai sens, non pas d'une religion, reliée à rien en latin, mais d'une relation avec Dieu. Et peut-être quelqu'un ici parmi nous ce matin a besoin de découvrir cette relation avec Jésus comme une relation vivante et personnelle. Alors écoutez ce message parce que Jésus cherche à répondre à vos questions. Je crois que Nicodème avait beaucoup de questions. C'était un intellectuel et c'est quelqu'un qui avait certainement, en voulant rencontrer Jésus, désirant de poser toutes sortes de questions. Mais vous savez, ce qui est dans le texte ici assez étonnant, c'est que Jésus ne lui a pas laissé le temps de commencer une grande discussion. Mais il lui a dit une vérité, il lui a dit ceci, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, parfois nous cherchons Dieu en tâtonnant de mille et une façons. Mais vous savez, la réponse de Dieu est bien plus simple. Parce que Jésus est celui qui voit par ses yeux divins ce qui est le plus grand besoin du cœur de l'homme et notre cœur individuellement. Et cet homme, Nicodème, qui avait une grande connaissance de la tradition et même, je dirais, en partie de l'Ancien Testament, il n'avait pas encore saisi, malgré les miracles de Jésus, malgré les 300 prophéties qui mentionne la venue de Jésus sur terre comme le Messie souffrant, le Messie qui allait apporter une guérison spirituelle dans les cœurs humains, il n'avait pas saisi encore que Jésus était ce Messie tant attendu dans l'Ancien Testament. Donc voyez-vous, on peut savoir des choses, mais être connaissant tout en étant voilé, avoir qu'une connaissance partielle de qui est Jésus, jusqu'à ce qu'on le rencontre personnellement. Et sachez que Jésus est prêt à se laisser rencontrer. C'est merveilleux cela. Jésus est disponible jour et nuit à rencontrer l'homme, à vous rencontrer, à me rencontrer, parce qu'il est Dieu. Il est disponible. Il a dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Mais Jésus, connaissant le vrai besoin de Nicodème, lui a dit ceci, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et un peu plus loin, il lui dit, « Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. » Alors ce matin, nous allons parler de la nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau. Qui était Nicodème? En résumé, encore une fois, Nicodème cherchait à voir Jésus, donc ça veut dire qu'il avait un intérêt dans les choses spirituelles. Il s'intéressait à ce personnage extraordinaire dont il entendait parler, qui faisait des miracles. Et donc il cherchait à savoir qui était Jésus un peu plus que ce qu'il avait entendu ou ce que les autres voulaient croire qu'il soit. Vous savez que un des plus grands mensonges qu'il y a eu en Israël, c'est de ne pas reconnaître Jésus comme étant le Fils de Dieu. Et les Juifs en particulier, les chefs religieux eux-mêmes qui auraient dû accueillir Jésus, l'ont rejeté. Alors ce Nicodème était en voie vers la connaissance de la vérité et de rencontrer réellement Jésus. Qui est Jésus vraiment? C'était un chef respecté. Moi je pense que c'est un homme très sérieux. C'était un juif qui connaissait l'Ancien Testament, certainement un homme moral, avec une certaine orthodoxie religieuse, en tout cas fait de principes, de lois. Il faut dire que les chefs religieux de cette époque-là, les pharisiens notamment, étaient imbus de leur personne, d'une certaine connaissance beaucoup liée à des traditions. Ils avaient ajouté à la loi de Dieu toutes sortes de traditions, et la tradition devenait plus importante que ce que Dieu voulait leur communiquer. Lorsque les habitudes religieuses deviennent un obstacle à ce que Dieu nous parle, nous devons abandonner l'erreur et la forme extérieure pour être visité intérieurement et être sincère devant Dieu, parce que Dieu cherche à visiter le cœur de l'homme. C'est extraordinaire cela. Alors c'était un homme instruit, mais il n'était pas né de nouveau. Et c'est pour ça que Jésus lui dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. D'où l'étonnement de Nicodème, qui ne comprend pas la régénération par l'esprit, du côté spirituel, dans l'être intérieur. Il dit, il faudrait que je rentre à nouveau dans le sein de ma mère. Cet homme si intelligent, ce docteur, en plus Jésus emploie, je ne sais pas si vous avez remarqué au verset 10, il dit, tu es le docteur d'Israël. Il n'a pas dit, tu es un des docteurs d'Israël. Ici, l'article dit « Tu es par excellence celui qui représente la connaissance qui est en ce moment en Israël. » Eh bien, cette connaissance, tu vois, ne t'a pas amené encore à naître de nouveau. Tu ne sais pas ces choses. Donc, Jésus laisse Nicodème s'approcher de lui. Jésus voit réellement le cœur de Nicodème et lui fait le reproche que là où il est encore, il n'a pas saisi ce qu'il devrait pourtant saisir par la connaissance de l'Ancien Testament. Tu es le docteur et tu ne sais pas. Vous savez, la connaissance enfle, dit la Bible, la charité édifie. Ce n'est pas parce que nous connaissons beaucoup que nous sommes nés de nouveau dans les choses de Dieu. Un simple enfant, et c'est pour ça que Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants, un enfant par une foi toute simple, qui croit que Jésus-Christ est Dieu, qui croit que Jésus-Christ a pris ses péchés à la croix et qu'il accepte dans son cœur, est visité par Dieu, est régénéré par Dieu, et a cette habitation intérieure de l'Esprit de Dieu en lui. Pourquoi ? Parce que naissance vient d'en haut. Et Nicodème, qui savait tellement de choses, n'avait pas rencontré encore celui qui venait d'en haut, Jésus, Dieu incarné, Dieu fait homme. Est-ce que vous êtes né de nouveau ? Une question clé, n'est-ce pas ? Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. Qu'est-ce que le royaume de Dieu ? On peut parler du royaume de Dieu sur la terre, mais on peut parler du royaume de Dieu dans les cieux. Et je pense qu'essentiellement Jésus fait référence à cela. Il y a une mort, et la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Et tout le monde sait qu'il va mourir. Même si on ne veut pas mourir, il y a des gens qui ont une espérance, n'est-ce pas ? Je pense que c'était Walt Disney qui s'est fait frigorifier en pensant qu'un jour la science serait capable de découvrir la vie pour toujours. Mais la vie pour toujours n'existe pas sur cette terre. Un jour, oui, dans le ciel, il y a la vie pour toujours. Et la Bible dit, il est donné aux hommes de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement ? Parce que la vie après la mort existe. Il y a des gens qui disent, mais non, vous verrez, moi quand je mourrai, puis si Dieu existe, je lui dirai ce que je pense de dire, qui pourrait faire une leçon à Dieu, son créateur. Mais vous savez, l'homme est une puce. Et aux yeux de Dieu, l'homme n'est rien, si ce n'est qu'il est tout dans le sens qu'il est sa créature. Mais en tant qu'être humain, nous sommes nés de la poussière et nous retournons dans la poussière. Et c'est une réalité que nous mourrons tous, parce que nous avons tous péché. Et le mot péché, dans le sens original, c'est l'idée de rater la cible, c'est-à-dire d'avoir raté la volonté de Dieu. Qui n'a jamais commis un péché dans sa vie ? Qui n'a jamais raté quelque chose dans sa vie ? Malgré les bonnes volontés, malgré peut-être même un désir de bonne morale. Tous et chacun, nous sommes tombés un jour dans un péché qui nous a liés. Pourquoi ? Parce que nous sommes des êtres avec une nature pécheresse. Le paradis perdu, le péché d'Adam et Ève nous a éloignés de Dieu. Et Dieu est venu en Jésus pour nous rattraper de notre perdition, pour nous donner la vie. Vous savez, il s'est passé quelque chose dans la vie de Nicodème. Je vais vous le dire, ce qui s'est passé, un petit peu plus loin dans l'évangile de Jean. au chapitre 7, lui à qui il est reproché de n'avoir pas compris. Eh bien, au chapitre 7, l'évangéliste Jean le suit, Nicodème, quelque part. Et chaque fois qu'il le mentionne, il dit « Nicodème, celui qui t'est venu visiter Jésus de nuit ». Ça l'a marqué. Mais vous savez, le jour où on rencontre Jésus, ça nous marque l'endroit où on l'a rencontré, les circonstances où on l'a rencontré. Et il est écrit ici, à partir du verset 47, les pharisiens leur répliquèrent « Est-ce que vous aussi vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » Voyez-vous, les chefs religieux, le manque d'amour qu'ils expriment ici envers le peuple. Ils n'étaient pas les bergers qui devaient prendre soin des brebis, mais ils étaient orgueilleux, suffisants, dans le contentement de leur fausse religion, fausse relation avec Dieu. Et Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait ?» Nicodème a pris la défense de Jésus. C'est bon signe quand on commence à prendre la défense de Jésus. Et en Jean chapitre 19, et c'est d'ailleurs l'objet de notre prochaine étude des groupes de maison, eh bien Nicodème, qui auparavant était, verset 39, était allé de nuit vers Jésus, encore Jean souligne cela, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès, tout cela pour la sépulture de Jésus. Nicodème a compris quelque chose. Vous savez, un face-à-face avec Jésus ne laisse pas indifférent. Et vous allez me dire, mais moi je n'ai pas été visité par Jésus, mais laissez-moi vous poser la question, est-ce que vous lui avez rendu visite ? Est-ce que vous êtes allé le voir? Est-ce que ce soit de jour et de nuit, avez-vous frappé à sa porte? Parce que Jésus frappe aussi à la porte de votre cœur. Il est écrit, si quelqu'un frappe à la porte et entre, j'entrerai chez lui. Je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un ouvre, j'entrerai chez lui. Voilà plus exactement le verset biblique. Alors nous allons parler de la nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau. Pour aller au ciel, il faut naître de nouveau. Il ne s'agit pas ici d'appartenir à une religion, si bonne soit-elle. Il y a je ne sais plus combien de milliers, 3 ou 4 000 religions dans le monde, si bonne soit-elle, il n'y a aucune religion qui amène au ciel et à la vie éternelle. C'est une personne, Jésus qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors Jésus a dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nicodème avait besoin d'entendre cela comme une vérité toute simple, mais qu'il n'a pas compris. Et peut-être vous aussi, vous ne comprenez pas exactement ce que Dieu veut vous dire. Mais sachez une chose, que comme Nicodème qui a persévéré et qui finalement a pris position pour Jésus, par cette rencontre, il a été transformé dans son cheminement spirituel. Persévérez dans votre recherche de Jésus, parce que Jésus se tient à la porte de votre cœur et qu'il ne met pas dehors celui qui vient à lui. Même il dit, pour nous encourager, cherchez et vous trouverez. Alors ici, la question clé, c'est est-ce que vous êtes en route pour le ciel ? Si vous deviez mourir aujourd'hui, pour quelle raison vous tenant dans la présence de Dieu ? Dieu vous laisserait-il rentrer au ciel? C'est une question clé, cela. Mais la Bible dit que la réponse, c'est par la nouvelle naissance, être né de nouveau. Pourquoi naître de nouveau? Comment un homme peut-il naître de nouveau? Qui doit naître de nouveau? Quand doit-on naître de nouveau? Et les résultats de la nouvelle naissance, c'est ce que je me propose, par la grâce de Dieu, de regarder avec vous ce matin. En fait, la nouvelle naissance, c'est une des grandes vérités de la Bible. De même qu'on doit mourir, c'est une grande vérité que la Bible dit, l'homme doit naître de nouveau. On doit mourir et la Bible dit qu'il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Une grande vérité aussi, c'est que nous devons rencontrer Dieu. C'est une des grandes vérités de la Bible. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et la Bible dit que nous devons naître de nouveau pour entrer dans le royaume des cieux. C'est une naissance d'en haut, qui n'est pas quelque chose que l'on peut produire, même en suivant sa religion, mais tout simplement qu'il reçoit, non pas quelque chose qu'il donne ou qu'il fait, mais qu'il reçoit comme un don gratuit. C'est ça la merveille et la beauté de l'Évangile, c'est de recevoir le don de Dieu. Alors qu'est-ce que tout d'abord ce n'est pas, il ne faudrait pas se méprendre sur ce qu'est la nouvelle naissance. Qu'est-ce que d'abord ce n'est pas la nouvelle naissance? Ce n'est pas un changement social. Il y a des gens qui rêvent de changer de métier, voire de changer de femme, n'est-ce pas? Et ils pensent que c'est ça, naître de nouveau, avoir un changement dans la vie. Ce n'est pas un changement social. Ce n'est pas non plus un changement physique. Refaire une beauté n'est pas naître de nouveau spirituellement. Changer d'apparence n'est pas changer intérieurement. On peut changer extérieurement, mais intérieurement rester absolument le même. Ce n'est pas non plus un changement de religion auquel Dieu nous invite. Il y en a tellement de religions possibles. Ce n'est pas aussi un changement de morale, de devenir quelqu'un avec une bonne morale. C'est peut-être bien, mais ce n'est pas suffisant devant Dieu. Ce n'est pas non plus un changement intellectuel ou un changement de comportement comme la maîtrise de soi. Je me souviens quand j'étais étudiant, j'avais parlé avec un jeune homme, moi-même ayant une deux chevaux, je ne sais pas si vous connaissez la deux chevaux, c'était difficile à doubler, surtout les camions, il fallait attendre que le vent soit derrière et que la pente soit là pour enfin pouvoir doubler, espérer doubler quoi que ce soit avec une deux chevaux. Mais je me souviens d'un jeune homme à qui j'ai parlé, il me dit, moi je pratique la maîtrise de soi-même. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, j'ai une deux chevaux. Ah! Il me dit, oui, j'ai mis une cale sous l'accélérateur pour ne pas aller trop vite. Mais savez-vous quoi? Il marchait comme une tortue. Et il pensait, je pense que surtout, il provoquait la colère des autres, non? Mais pour lui, c'était ça, se maîtriser, avoir une nouvelle naissance dans sa vie, le changement espéré. Et puis, ce n'est pas non plus la réincarnation. Ce n'est pas non plus être baptisé. Ou ce n'est pas non plus une présentation d'enfants. Si beaux sont nos enfants, ils naissent pécheurs, il n'y en a aucun qui naisse en disant Alléluia, n'est-ce pas? Et le jour où ils grandissent, on s'aperçoit, nous parents, qui nous ressemblent et qui sont aussi pécheurs que nous. Donc tout cela n'est pas la nouvelle naissance. Qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance? C'est quelque chose que Dieu donne d'en haut. C'est quelque chose qu'on reçoit. C'est un miracle de la part de l'Éternel. Alors pourquoi naître de nouveau? Jésus dit ceci: ce qui est né de la chair est chair. En tant qu'être humain, on est de la chair et on est pécheur. Or, la Bible dit que les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, c'est-à-dire toute relation sexuelle en dehors des liens du mariage, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions. Si vous n'êtes pas encore convaincu, je continue la liste, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables, et c'est Dieu qui parle, n'est-ce pas? C'est pas moi. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. On est né pécheur, on n'a pas voulu naître pécheur, mais c'est malgré soi. On a ce boulet qu'on traîne avec ces chaînes du péché dans notre vie et cette tendance à vouloir pécher continuellement. Je ne fais pas le bien que je veux, dit l'apôtre Paul, je fais le mal que je hais. C'est la preuve qu'on est lié à nos péchés, malgré soi. Et la Bible dit que non seulement ce qui est cher, et que cette naissance spirituelle doit venir d'en haut, mais aussi que par nature, on est mort à cause de nos péchés. Mort dans le sens du mot grec, séparé. Le jour où on meurt, c'est la séparation de l'âme et du corps. Le mot péché entraîne la mort spirituelle qui est la séparation d'avec Dieu. Il y a la mort physique et la séparation de l'âme et du corps. Il y a la mort spirituelle sur terre, quelqu'un qui n'est pas en communion avec Dieu. Et il y a la mort spirituelle à jamais qui est la séparation d'avec Dieu pour toujours, qui est l'enfer. Et Jésus a parlé plus de l'enfer que du ciel comme avertissement sérieux envers les hommes afin qu'ils se détournent de leurs péchés, qu'ils se repentent et qu'ils naissent de nouveau. La Bible dit qu'on a besoin de naître d'en haut, parce que la Bible dit qu'on est comme voilé. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Comment se fait-il que Dieu qui a envoyé son Fils Jésus-Christ, parfaitement homme, parfaitement Dieu, qui a fait des miracles extraordinaires, nous l'ayons crucifié au nom des malfaiteurs? Comment se fait-il que dans le cœur de l'homme, il y a un tel mensonge pour ne pas aller à la vérité et croire simplement que ce que Jésus-Christ a dit, ce qu'il a fait, c'est vrai? Comment se fait-il qu'il y ait tant d'énergie qui s'oppose à la parole de Dieu et au Christ? Certainement que le diable existe, mais le cœur humain se donne volontairement parfois ce mensonge et il est séparé d'avec Dieu. Le drame de l'homme aujourd'hui, ce n'est pas un drame politique ou un drame économique ou un drame sociologique. Le drame du cœur de l'homme, c'est le péché, la séparation d'avec Dieu. Et c'est cette maladie chronique dont il a besoin essentiellement d'être guéri. Alors, nous devons aller à Jésus pour être guéris. Parce que la Bible dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Dieu nous invite à une expérience d'en haut, une expérience spirituelle que Dieu lui-même fait dans le cœur de l'homme en échange de sa foi. La foi basée sur quoi? Sur la parole de Dieu. Un homme peut naître de nouveau parce qu'il croit en la parole de Dieu. La Bible dit ceci, c'est Jésus qui l'a dit, il faut naître d'eau et d'esprit. Il n'est pas en train de dire à un homme, il faut naître d'eau, les eaux, n'est-ce pas, de la maman qui t'a enfanté. C'est pas ça que ça veut dire. L'eau ici, c'est le symbole de la parole de Dieu. Un homme doit naître d'eau et d'esprit basé sur ce livre et sous l'action du Saint-Esprit en croyant ce livre. Alors le cœur de l'homme est régénéré par l'habitation du Saint-Esprit qui vient habiter, par la venue du Saint-Esprit qui vient habiter dans le cœur de l'homme. Et ça, il n'y a personne d'entre nous qui pouvons le faire. C'est le miracle de Dieu. Dans sa souveraineté, Dieu accorde le salut et son esprit qui vient habiter dans le cœur de l'homme. Le moment où le cœur de l'homme s'ouvre et reçoit ce don. Que faut-il faire alors? Que faut-il faire pour être sauvé? Disait le geôlier à Paul, et Paul et Silas, alors qu'ils étaient délivrés de la prison. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus. Croire en la parole de Dieu. La Bible dit elle-même, Pierre dit, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. Ce livre est le plus lu dans le monde, et pourtant je peux vous dire que Satan s'acharne à ce que les hommes ne lisent pas ce livre. Satan a tout fait pour détruire ce livre. Même Voltaire a essayé de détruire ce livre. Et des gens sont pourtant morts avec une Bible autour du cou. On les appelait les Lola, L-O-L-A-R-D-S, en Angleterre, morts, brûlés vifs, avec une Bible autour du cou, parce qu'ils étaient prêts à mourir à cause de cette parole divine, parce qu'ils avaient cru dans le salut présenté dans cette parole et en Jésus. Satan attaque la parole de Dieu. Satan va vous attaquer pour pas que vous lisiez ce livre. Mais si vous commencez à l'ouvrir, à découvrir Jésus, Jésus va se manifester à vous. C'est la façon avec laquelle Jésus veut se manifester à nous. La Bible dit en Jacques chapitre 1, verset 18, « Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. » La parole de Dieu régénère le cœur de l'homme. C'est merveilleux cela. Vous savez, moi j'aime bien voir les nouvelles. Alors, je suis abonné à quelques revues, j'aime bien écouter la radio, mais vous savez, à la radio, j'ai jamais entendu quelqu'un qui parlait de savoir comment être régénéré. On peut lire toutes sortes de livres, on peut regarder toutes sortes de programmes à la télé, plus ou moins bons d'ailleurs, mais ce n'est pas ça qui régénère, c'est la parole de Christ qui régénère le cœur. Et si vous voulez vous tourner vers Dieu ce matin, ou dans votre vie, tournez-vous vers la parole qu'il a écrite. Jésus était la parole incarnée sur terre. Et cette parole a été faite chair. Et la Bible dit qu'elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ici, la préposition auprès, c'est comme un face-à-face. Dieu le Père et Dieu le Fils étaient face-à-face. Et dans sa grande miséricorde et bonté, le Père a envoyé son Fils, et le Fils, par l'amour du Père, a accepté de s'incarner et habiter parmi les hommes, afin de montrer l'amour du Père. C'est la preuve extraordinaire de l'amour de Dieu le Père et de l'obéissance du Fils envers le Père. Et c'est ce Dieu-là qui vous aime et qui veut vous régénérer par sa parole, par son esprit. La Bible dit qu'il faut naître d'eau et d'esprit. La Bible dit ceci, que quand Jésus serait ressuscité, il enverrait le Saint-Esprit. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et l'homme réfléchit dans son cœur. Il dit, pourquoi nous avons tué Jésus-Christ ? Lui qui était parfaitement homme, sans avoir jamais commis d'erreur, sans avoir jamais commis de péché, pourquoi l'avons-nous crucifié ? C'est le Saint-Esprit qui nous pousse à chercher la guérison de nos péchés. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse et qui nous convainc du péché, qui nous convainc de notre esclave et dont nous avons besoin d'être libérés. Et c'est le Saint-Esprit qui nous pousse à accepter Jésus. Et lorsqu'on ouvre son cœur, comme la Samaritaine face à Jésus, comme Nicodème, alors à ce moment-là, l'Esprit Saint vient. Et c'est notamment, et ça a été le cas des disciples, n'est-ce pas, le jour de la Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et c'est le début de l'âge de l'Église où tout croyant, sincère, qui accepte Jésus, reçoit le Saint-Esprit, est habité du Saint-Esprit, est scellé du Saint-Esprit, qui est la garantie de son salut éternel. J'aimerais pas vous faire un cours de biologie parce que ça a été une des matières les plus faibles que j'ai eues à l'école. Je confesse cela. Mais il y a un miracle. Et hier, alors c'est le miracle de l'internet dans le bon sens, parce que parfois c'est pas toujours bon, il faut le reconnaître. Mais j'ai regardé une vidéo d'un quart d'heure et je peux pas vous la passer. Mais qui montrait le miracle de la transformation de la chenille en chrysalide et puis en papillon. C'est extraordinaire. Comment la chenille s'attache avec un fil à un petit brin d'arbre, n'est-ce pas, une petite branche, ou enfin, et finalement se transforme en chrysalide qui devient finalement un papillon. C'est extraordinaire cela. En l'espace de quelques minutes, la nymphe se dégage de la vieille enveloppe et fixe la chrysalide, la nouvelle enveloppe, qui se durcit, forme les organes vitaux, c'est ce que j'ai lu sur Internet, excusez, de futurs papillons, 4 ailes, 6 pattes, 2 antennes, pour devenir en une demi-heure, une heure, un papillon adulte. Combien de temps faut-il pour être régénéré ? Eh bien, contrairement aux papillons, ça prend une demi-heure, une heure, pour être régénéré, il suffit d'une fraction de seconde. C'est ça le miracle de Dieu. Un pécheur qui se dirige vers les mauvaises habitudes de son cœur. Le jour où il accepte Jésus, il tourne le dos aux ténèbres, aux mauvaises habitudes. Il se tourne vers la lumière. C'est instantané. Quelqu'un a dit qu'un jour, le moment où la prostituée se convertit, elle devient l'enfant chéri de Dieu qui la voit comme si elle n'avait jamais commis aucun péché. C'est ça le miracle de Dieu. Le miracle de Dieu fait que Dieu nous voit en Jésus-Christ lorsqu'on se revêt de Jésus-Christ, lorsqu'on l'accepte. Et Dieu nous voit avec des yeux comme si nous n'avions jamais péché, tout en sachant que nous avons péché et qu'on est parfaitement nos péchés. C'est le miracle du pardon. C'est le miracle du sang de Jésus qui purifie de tout péché. C'est un acte que Dieu a fait, l'expiation. Ce n'est pas que nous avons besoin d'expier nos péchés, de souffrir pour enfin acquérir le pardon de nos péchés. Mais c'est Jésus qui a souffert pour nous. Devons juste recevoir ce pardon et être couverts par son sang. C'est lui qui couvre notre péché. C'est un acte divin que lui a accompli. Alors à qui s'adresse ce message ? Qui doit naître de nouveau ? Ben, toutes sortes d'hommes et de femmes et d'enfants et de vieillards. L'homme religieux, l'homme instruit, l'homme dépravé, perdu dans ce monde. Vous savez, on dit, ben lui, celui-là, il a vraiment besoin du Seigneur. Parce qu'il vit dans telle chose, mais celui qui a une bonne moralité, il en a tout autant besoin, parce qu'il est tout autant perdu. Le peu instruit, l'instruit, l'intellectuel, le peu intellectuel, peu importe. Ce message est assez simple pour que quiconque croit soit sauvé. Parce que nous sommes tous en route vers une perdition, peut-être sans le savoir. Et nous sommes tous liés à une mort certaine. Et la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Où doit-on naître de nouveau ? Ben, c'est clair, ça ne peut pas être après. Vous n'avez jamais entendu, moi j'ai cru cela longtemps, qu'après la mort, peut-être ben, entre la balance des bonnes œuvres et des mauvaises œuvres que j'aurais faites, bon, certainement les mauvaises œuvres étant plus fortes dans la balance, plus pesantes, j'irai au purgatoire un certain temps. Et donc Dieu me prendrait un certain temps pour être transformé par des souffrances éventuellement. C'est ce qu'on m'a enseigné, jeune. Ben, c'est un mensonge. Après la mort, il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après vient le jugement. Une fois qu'on meurt, on entre dans la présence de Dieu, ou dans la présence éternelle de Dieu, le paradis, comme Jésus a dit aux brigands, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis, ou loin de Dieu pour toujours. Donc c'est sur terre qu'il faut naître de nouveau. C'est la seule condition pour un pécheur d'entrer au ciel. Au ciel, il n'y aura que des pécheurs, mais des pécheurs sauvés par grâce, nés de nouveau, parce que transformés par la puissance du Saint-Esprit. Alors la question est de savoir, mais quand est-ce que je dois naître de nouveau? C'est vrai quelque part qu'on ne peut pas choisir le moment de sa nouvelle naissance par soi-même. Dieu reste souverain, mais il n'empêche pas moins qu'il y ait un appel divin du haut des cieux qui dit ceci, écoutez-moi bien. Il dit ceci, « Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, maintenant le jour du salut. » Il y a un moment où Dieu visite le cœur de l'homme et il est prêt à accepter Jésus. Alors, brièvement, mais c'est quand même bon de le dire, quels sont les résultats de, et on termine avec cela, de la nouvelle naissance? Alors, je vais le résumer. Mais c'est extraordinaire. Je me souviens avoir eu un copain d'enfance qui travaillait à la préfecture pendant un certain temps et qui m'a dit, mais il y a une dame là dans le bureau. Cette dame, elle arrive le matin, elle est joyeuse. Elle est toujours joyeuse, souriante, elle a toujours un mot aimable envers les autres. C'est elle qui crée l'atmosphère dans le bureau. Figurez-vous que cette dame, je la connaissais. Et cette dame était une croyante née de nouveau, qui connaissait le Seigneur et qui amenait le Seigneur dans son travail. Donc elle avait une vie qui faisait du bien autour d'elle. Quelqu'un qui a une vie nouvelle par le Saint-Esprit, par la nouvelle naissance, est transformé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Même le plus grand des blasphémateurs devient quelqu'un qui emploie des mots tendres et doux. Le plus grand criminel devient quelqu'un qui se repent. Criminel, pas simplement tué physiquement, et toutes sortes de crimes, n'est-ce pas, que l'on peut faire. Alors, mais le plus grand bénéfice que l'on a, c'est de posséder la vie éternelle. Le jeune homme riche est parti tout triste parce qu'il avait de grands biens. Il a préféré sa richesse à suivre Jésus-Christ. Ne faites pas cette erreur. Les richesses que nous avons, quelles qu'elles soient, matérielles ou autres, ne sont rien par rapport à l'héritage spirituel que Dieu veut nous donner, qui est la vie éternelle. Ça ne vaut pas la peine de se perdre. Que voudrait-il un homme de gagner tout le monde s'il venait à perdre son âme, dit la Bible. Jésus-Christ offre la vie éternelle, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Il n'a pas dit afin que vous sachiez que vous aurez peut-être un jour, il a dit que vous avez la vie éternelle. Et puis il y a la victoire sur la tentation. Moi je me souviens quand j'allais me confesser à un prêtre, j'étais élevé chez des jésuites ici, au cas où, pour ne pas le mentionner. Et je me souviens aller me mettre confessé au prêtre et être joyeux sur le moment, mais recommencer tellement souvent que ça venait décourageant. Jusqu'à ce qu'une fois sauvé, Dieu me montre qu'on a la victoire sur le péché. On a la victoire sur la tentation, parce que Jésus est avec nous. Et celui qui est en nous est plus fort aussi que celui qui est dans le monde. On a la victoire sur le péché, on a la victoire sur le diable. Et puis on est appelé enfant de Dieu, on a une nouvelle identité. Tout d'un coup on se voit comme Dieu nous voit et il nous dit « tu es mon enfant ». Quel est le père qui n'aime pas son enfant? Un père normal aime son enfant, veut le gâter et Dieu veut nous gâter. On devient l'objet chéri de son amour et de ses bienfaits. Et dans sa sainteté, bien sûr, il nous accorde ce que nos cœurs désirent. Et on marche en nouveauté de vie. Le chrétien sait comment marcher sur terre, il sait où il s'en va, il a l'assurance du pardon de ses péchés, il a l'assurance de la vie éternelle, il a un cantique dans son cœur. Même celui qui chantait le plus faux, même a un cantique dans son cœur. Et puis il a une nouvelle ambition, c'est de plaire à Dieu. C'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable, disait l'apôtre Paul, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Et puis il a une adoration nouvelle dans son cœur, il adore Dieu en esprit, en vérité. Il a l'assurance que Dieu lui a préparé une place dans le ciel. Il sait que quitter ce corps n'est qu'un bienfait finalement un jour, comme dit l'apôtre Paul, mourir c'est un gain, car de loin c'est d'être avec Christ et c'est de loin le meilleur. Et puis finalement, je termine avec cela, avant de porter une petite conclusion quand même, mais il a l'Esprit de Dieu en lui. Et la Bible dit le fruit de l'Esprit, pas le fruit de la chair, pas le fruit de ce qu'on peut produire. Le fruit de l'Esprit, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la bonté, je ne veux pas en oublier un, je lis tout, la patience, la bénédicité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est merveilleux cela. Vous n'avez pas envie de vivre cela? Beaucoup de gens cherchent le bonheur, mais on ne peut pas acheter le bonheur. Avec l'argent, on peut acheter beaucoup de choses, une belle maison, une belle voiture, mais on ne peut pas acheter l'amour, puis on ne peut pas acheter le salut. On ne peut même pas acheter les études et les examens non plus pour les étudiants. Mais par contre, on peut recevoir Jésus gratuitement et avoir le bonheur gratuit en Christ, la paix et la joie. Il n'y a pas de plus grand bonheur de connaître Jésus. Est-ce que vous le connaissez ce matin? Êtes-vous né de nouveau? Voulez-vous alors naître de nouveau si ce n'était pas le cas? Un choix entre la vie et la mort. Jésus a dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je lui souperai avec lui et lui avec moi. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est gratuit, c'est accessible, parce que Jésus s'est rendu accessible. De même qu'il s'est rendu accessible à Nicodème, ce matin, il est accessible à quiconque s'approche de lui. Moi, je remercie le Seigneur de cela. Prenez rendez-vous avec Jésus. Il est disponible. Prions. Notre Père céleste, tu nous as rappelé encore ce matin le don de la grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Non, on ne peut pas fabriquer le salut, on ne peut pas fabriquer la vie de l'Esprit. On peut simplement s'humilier et dire, Seigneur Jésus, entre en moi, sauve-moi, donne-moi la vie éternelle, scelle-moi de ton esprit, fais que je puisse voir le royaume de Dieu, que je puisse entrer dans ton royaume pleinement, être sauvé et vivre pour toujours dans ta gloire. J'invite quiconque ici ce matin, qui n'a pas encore fait ce pas, à faire cette prière. Seigneur Jésus, entre en moi, sauve-moi. Je veux entrer dans ton royaume. Je veux voir ton royaume. Donne-moi la vie éternelle. Pardonne mes péchés. Si vous avez fait cette prière dans votre cœur ce matin, alors osez dire à quelqu'un d'autre que vous avez fait ce pas. Témoignez de Jésus. Témoignez de lui. Amen.